Gloire au Seigneur. Voilà, merci pour ces chants, qui je pense sont des vérités extraordinaires, nous les rappellent en tout cas. On est heureux de se retrouver, je pense, pour partager ces instants ensemble sous le regard du Seigneur. Je vous invite à faire une lecture dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10. On va lire du verset 1 au verset 18 dans un premier temps. Il est écrit: en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a fait sortir, toutes sont ses propres brebis. Il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voie des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne la comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait même avec abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là. Il faut que je les amène, elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. On va ensemble au verset 27 de ce même chapitre. Il est écrit, « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père, moi et le Père, nous sommes un. Amen. Amen. Voilà, on a fait une lecture qui est, je pense, très importante et qui bouleverse nos cœurs. Et je pense qu'on prend plaisir à lire la parole. Et je pense qu'on a tous été interpellés par ce texte, par l'enseignement que Jésus voulait donner aux personnes qui étaient là, à ses disciples, à ceux qui l'écoutaient. Et je pense que pour nous, il y a là un cheminement véritable, un cheminement qui nous montre où est-ce que le Seigneur veut nous emmener, un cheminement qui nous montre une direction, parce que je pense qu'on est d'accord ce soir pour dire que l'homme, l'être humain, a besoin d'une direction dans sa vie. On avait besoin, et je pense ce soir particulièrement, d'entendre ces choses. Jésus va dire « Je suis la porte, je suis la porte ». Ça m'a, dans un premier temps, interpellé et je me suis... on peut s'interroger et se dire, mais quelle drôle d'image. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire? Je suis la porte, on s'imagine. Et je pense que tout le long de son ministère, Jésus a vraiment pris des images qui pouvaient être comprises d'une manière facile, concrètement, par rapport à l'enseignement spirituel qu'il voulait donner à ceux qui étaient là, ceux qui l'écoutaient. Et je pense que ça relate vraiment le cœur du Seigneur dans son amour, dans le message qu'il veut partager à tous ceux qui sont autour de lui, cette facilité, cette accessibilité qu'il avait pour chacun d'entre nous. Et lorsque Jésus dit « Je suis la porte », peut-être qu'on a du mal à saisir, mais je pense que derrière cela, il y a vraiment un enseignement spirituel profond. En tout cas, ça doit nous faire réfléchir. Pourquoi est-ce que le Seigneur, à un moment donné, dans son ministère terrestre, a voulu dire cet enseignement? Je pense que la Bible, de toute manière, s'explique par elle-même et qu'on peut trouver beaucoup de versets qui expliquent cela, qui qui relate un peu le cœur de l'être humain. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ voulait se présenter en tant que porte? Il y a ce verset qui est venu sur mon cœur pour exprimer cela d'une manière peut-être plus concrète. C'est dans Ésaïe 53, au verset 6, la première partie du verset. On le connaît tous, pour nous qui avons en tout cas l'habitude de lire la parole de Dieu, on le connaît parfaitement, mais ce verset nous dit « Nous y étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie ». Et on pourrait peut-être un peu le comprendre d'une manière éclairée par rapport au texte que nous venons de lire. On pourrait dire que chacun suivait sa propre voie. D'ailleurs, une version en français courant dit « c'était chacun pour soi ». C'était chacun pour soi, et donc chacun pour soi, ben on fait ce qu'on veut. C'est là un peu le reflet, le miroir de la société, de l'être humain. C'est là, ça a été en tout cas le reflet de notre vie, de ma vie, de la vie de beaucoup de personnes ici ce soir présentes. On faisait ce qu'on voulait, parce qu'on se disait que c'était nous, en tant qu'être humain, on sait mieux que quiconque ce qu'il convient, ce qu'il faut pour notre vie. Et c'est là, je pense, là une des erreurs fondamentales qu'il y a chez l'être humain, de pouvoir penser que quelque part il est supérieur à Dieu, de pouvoir penser que quelque part, lui, il sait mieux que tout le monde, il sait mieux donc que Dieu, celui qui a créé l'humanité, celui qui a créé l'homme, la créature de Dieu, il sait mieux que Dieu ce qu'il faut pour sa propre vie. C'est pour ça que la Bible nous reflète vraiment ce qu'il y avait dans notre cœur, reflète d'une manière pratique, concrète, ce qu'il y a au fond de chaque être humain. On fait ce qu'on faisait, du moins pour certains, et peut-être pour certains c'est encore le cas, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut parce que c'était chacun pour soi. Et peut-être qu'on peut comprendre un petit peu, du moins j'espère que ça se dessine dans l'esprit de quelques personnes ce soir, pourquoi Jésus a voulu recentrer les choses, a voulu recadrer en disant « mais effectivement vous faites un peu ce que vous voulez, c'était chacun pour soi, donc on pourrait dire qu'il y a plusieurs directions, plusieurs pistes, plusieurs choses dans notre vie, plusieurs chemins, plusieurs portes, pour faire le lien avec le texte qu'on vient de lire, et Jésus est en train de recadrer les choses pour dire il n'y a qu'une seule porte. Il y a en vérité qu'une seule porte qui va vous mener vers la vraie vie, vers la véritable vie. Il n'y a qu'une seule porte que vous devez franchir pour commencer, pour entreprendre un chemin qui ne va pas vous décevoir, pour prendre un chemin qui ne va pas vous bousculer, vous faire basculer dans votre vie, mais un seul chemin. D'ailleurs, la Bible nous le dit, c'est ce que Michaël a cité. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il aurait pu dire, et on peut transposer un petit peu à la lumière de ce texte, « Je suis la porte, la seule porte que vous devez franchir. Je suis la seule direction dans laquelle vous devez aller pour pouvoir comprendre, pour pouvoir appréhender votre vie, pour pouvoir comprendre. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'on avait besoin de prendre cette porte? Pourquoi est-ce qu'on avait besoin et pourquoi, peut-être pour une personne ici présente, on a besoin de s'engager sur ce chemin, le chemin dont Jésus-Christ nous a tracé la route? Pourquoi est-ce qu'on devait prendre cette voie-là? La signification, on pourrait ramener d'une manière un peu littérale, en tout cas d'une manière assez imagée, lorsqu'on lit « chacun suivait sa propre voie », on pourrait traduire sa propre voie par cette image qui est un peu, même beaucoup parlante. C'est comme si on prenait un arc, on bandait l'arc et on décochait l'arc pour faire partir une flèche. C'est un peu ça l'image de chacun suivait sa propre voie. Cette image de notre vie où finalement on est sans cesse en train de chercher un sens, on est sans cesse en train de chercher un but, on est sans cesse en train de chercher ce qui va pouvoir satisfaire notre cœur, ce qui va pouvoir combler ce vide qu'il y a en nous. Et on pourrait parler longuement sur le fait de est-ce qu'il y a réellement un vide en nous. Et je pense que si on est honnête, si on est vrai, on pourrait s'ouvrir et mettre à nu notre cœur ce soir, pas devant moi, pas devant qui que ce soit, mais devant le Seigneur. Seigneur en disant, effectivement, il y a un vide, parce que c'est là, en tout cas, ce que nous montre la société actuelle, une société qui fait croire que l'homme peut trouver son épanouissement dans ceci ou dans cela, qu'il peut trouver une paix intérieure dans tel mouvement religieux ou dans tel mouvement, dans telle pensée philosophique. Mais Jésus-Christ est là pour dire que ce n'est pas question de religion, ce n'est pas question de mouvement, de pensée philosophique, de science ou quoi que ce soit d'autre. Jésus-Christ est là pour dire, mais voilà, je suis venu, je suis la porte, parce qu'il faut que vous preniez ce chemin, que vous passez cette porte pour être sauvé. La signification, pour que vous compreniez cette image de chacun suivait sa propre voie, c'est prendre un arc et décocher une flèche. On le dit souvent, mais vraiment, je pense que c'est une image qui est tellement parlante ce soir. C'est la signification du mot péché, vraiment, on pourrait la prendre comme ça, c'est manquer le but, manquer la cible. De cette manière où on décoche l'arc et on se dit, mais ma vie, ça va être cela, ça va être ceci. Ma vie, ça va être de réussir au niveau professionnel. Ma vie, ça va être de pouvoir fonder un foyer, ce qui sont des choses tout à fait louables, légitimes même, si je puis dire. Ce sont des choses normales, mais si on met comme un seul et unique but ceci ou cela, il arrivera un moment où notre vie va être desséchée, où on va manquer le but, où on manque le but de notre existence. On manque le but parce que la Bible nous dit, nous enseigne, reflète cette vérité qu'aujourd'hui peut-être le monde ne veut pas accepter, cette vérité que tous les hommes sont des pécheurs. Tous les hommes ont manqué le but initial. Tous les hommes ont manqué ce but prévu par Dieu. Tous les hommes passent à côté de ce chemin que Jésus-Christ avait prévu, a prévu que Dieu le Père, dès la fondation, lorsqu'il a créé l'être humain, sa créature, il n'avait qu'un seul et unique but, d'être dans une relation d'intimité, dans une communion. Et voilà ce que le péché est venu faire. Le péché est venu balayer cette communion, balayer cette relation, briser cela. Et c'est là le chemin de tout homme. C'est là ce que l'être humain essaye de faire, peut-être même sans s'en rendre compte, peut-être même inconsciemment, mais l'homme essaye de se rapprocher de Dieu en essayant de faire peut-être des bonnes actions, en essayant d'avoir une bonne morale, en essayant de dire, mais voilà, moi dans ma vie, tout est bien, tout est super, et je pense que s'il y a un Dieu qui existe, lorsque je me retrouverai face à lui, ça ira bien. L'homme essaye de se satisfaire lui-même en apaisant sa conscience, mais il y a cette réalité. Et ce soir, on veut vous dire, les chants ont présenté ce message extraordinaire, le message de la croix. Jésus est venu pour présenter ce message extraordinaire, ce message d'amour, ce message qui dit qu'on ne pourra rien faire pour rétablir cette relation. On ne pourra rien faire pour gagner le cœur de Dieu. On ne pourra rien faire pour essayer par nos propres moyens. On pourrait même se construire une porte. Je ne sais pas s'il y a des bricoleurs ce soir, mais on pourrait se dire, je vais construire ma propre porte, je vais construire mon propre chemin pour aller auprès de Dieu, pour aller rencontrer celui qui a créé le monde entier. Cela ne servira à rien. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu dans ce monde, c'est pour ça qu'il est mort sur la croix, c'est pour ça que son sang a versé, c'est pour ça que ses mains ont été percées pour chacun d'entre nous, pour qu'au travers de son sacrifice, nous puissions non seulement franchir la porte, mais marcher sur ce chemin où la paix de notre Seigneur surpasse tout, règne dans notre vie. On a besoin, je pense, de voir la porte, on a besoin de franchir la porte. Et peut-être que ce soir, on pourrait dire, mais oui, mais moi, dans ma vie, ça a été légitime, j'ai franchi beaucoup de portes, il y a beaucoup de portes qu'on peut franchir, on peut franchir mille et une portes, on peut même s'enfermer en passant des portes, on peut s'enfermer dans l'incrédulité, on peut s'enfermer dans la rébellion, on peut s'enfermer dans l'angoisse, dans le mal-être, on peut s'enfermer dans beaucoup de choses, mais ce que Jésus-Christ est venu faire, et c'est ce message qu'on ne se lassera jamais de présenter, c'est que Jésus-Christ est capable, délicatement, sans violenter qui que ce soit, sans bousculer notre identité, sans venir malmener notre personnalité. Jésus-Christ est là et par sa sensibilité, par son amour, par son affection pour chacun d'entre nous, par le don de sa vie. Il veut simplement nous dire que la finalité pour nous dans notre vie, ce n'est pas de fermer les portes sur notre mal-être en disant « c'est ainsi, ma vie est vouée à être dans un mal-être constant, ma vie est vouée à être dans la rébellion, dans la haine, parce que j'ai été meurtri, parce que j'ai été déçu, parce qu'il y a eu ceci ou cela. » Mais Jésus-Christ est venu pour dire « mais voilà, là où le péché est venu détruire, là où il y a eu des choses malsaines qui ont régné dans ta vie, la grâce de Dieu est capable de surabonder, de venir couvrir tout cela, et c'est là le cadeau du sang de Jésus-Christ. » Il y a ce verset dans le livre, dans l'épître des Hébreux, où il est écrit que Jésus-Christ a inauguré une nouvelle route, une nouvelle route. Et ce soir, on veut s'encourager. On veut s'encourager et je vous encourage. Et on peut être nombreux ce soir à rendre ce témoignage que cette nouvelle route est une bénédiction. Ce nouveau chemin est une bénédiction. Jésus-Christ va dire au verset 9 de l'évangile de Jean, du chapitre 10, ce qu'on vient de lire, « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » On comprend pourquoi Jésus-Christ a insisté et on comprend cette nécessité de franchir la porte. On comprend cette nécessité peut-être d'emprunter cette nouvelle route, ce nouveau chemin, parce qu'on a besoin d'être sauvés. On a besoin de comprendre que sans Jésus-Christ, nous sommes perdus. On a besoin de comprendre que si on ne se repent pas, si on ne se reconnaît pas en tant que pécheur, on a besoin de comprendre que ce que la Bible dit est la vérité et on a besoin de le saisir avec foi. On a besoin d'accepter ce message parce que si la Bible nous dit que nous sommes pécheurs, la Bible nous dit aussi qu'en Jésus-Christ, nous avons le pardon de nos péchés. La Bible exprime cela avec beaucoup de justesse, de vérité, mais aussi beaucoup d'amour. Si nous sommes pécheurs, Dieu n'a pas laissé l'homme se perdre en lui-même, Dieu n'a pas laissé l'homme de côté en disant « mais voilà, il ne fallait pas qu'Adam et Ève rompent cette alliance, pêchent, il ne fallait pas qu'ils fassent ceci ou cela, ou il n'est pas là en train de te regarder ou de nous regarder en disant « mais voilà ce que tu as fait dans ta vie, ce n'est pas bien, voilà ce que tu as fait, tu seras puni pour cela ». Mais l'amour de Dieu se manifeste dans ce que Jésus-Christ est mort pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions avoir le pardon de nos péchés et avoir cette possibilité de connaître autre chose dans notre existence, cette possibilité de franchir cette porte en Jésus-Christ. La deuxième proclamation que j'ai notée de Jésus-Christ, c'est qu'il va dire « Je suis le bon berger ». Je suis le bon berger. Et il donne « je donne ma vie pour mes brebis ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je pense que vraiment Jésus-Christ savait ce qu'il faisait lorsqu'il a donné ses enseignements, cette parabole. Je pense qu'il avait en vue vraiment le chemin, le cheminement de l'être humain, ce que nous devons avoir dans notre vie pour accéder au salut. Parce que ça n'est une chose que de franchir la porte, que de dire effectivement, je pense que Jésus-Christ est pas comme je l'entendais, pas comme je croyais. C'en est une chose et déjà, c'est quelque chose de bien que de franchir la porte, mais il faut aller peut-être un peu plus loin ce soir. Il faut aller peut-être un peu plus en profondeur pour considérer vers quel chemin nous mène cette porte que nous franchissons. Et ce chemin, il est là, il est exprimé dans ce sens, je donne ma vie pour mes brebis. Mais pourquoi est-ce qu'on avait besoin que Jésus-Christ nous donne sa vie? Je lui ai répondu et on y reviendra, je pense, parce qu'on ne peut pas se lasser de dire cela. Mais la deuxième partie du verset 6 dans Ésaïe 53 nous dit « Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Parce qu'il y avait cette condamnation, ce péché, il fallait qu'on puisse avoir une solution. Et pas nous. Il fallait que Dieu donne une solution. Il fallait que Jésus-Christ se donne volontairement, on l'a lu. Et je trouve cela extraordinaire. Je ne peux pas me lasser de lire cela parce que Jésus-Christ est en train de dire « mais c'est moi qui ai voulu donner ma vie. On ne m'a pas obligé, c'est moi qui ai voulu. C'est moi qui ai voulu donner ma vie parce que je voulais que l'ensemble des êtres humains qui mettent ma foi en moi, je voulais que tous puissent accéder à cette vie et à cette paix pour l'éternité. » Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il va prendre une comparaison en parlant d'un mercenaire, et c'est des personnes qu'on peut rencontrer parce que On n'est pas là pour parler d'un mouvement religieux, pour parler d'une religion, pour parler d'un système. On n'est pas des professionnels de la prédication. On est là simplement pour parler d'un message d'amour. Jésus-Christ va dire, mais effectivement, on peut engager quelqu'un. On peut engager quelqu'un pour faire paître le troupeau. On peut. Et dans le monde, il y existe. Les bergers, c'est un métier, c'est un travail. Effectivement, on peut essayer, effectivement, d'aller voir des gens qualifiés qui vont essayer de nous donner la vie, d'essayer du moins de nous donner la paix. On peut essayer de trouver dans le système du monde, dans ce que le monde peut proposer, on peut essayer de trouver un réconfort, on peut essayer de trouver le soulagement pour notre âme, on peut essayer de trouver des personnes qui peuvent être de confiance. Mais voilà, de la même manière que le mercenaire, c'est son travail, lorsqu'il arrive une tribulation, lorsqu'il arrive un danger, lorsqu'il arrive un loup, lorsqu'il arrive, pour reprendre un autre passage dans la Bible, lorsqu'il y a un lion qui vient, comment est-ce qu'on se comporte? Qu'est-ce que le monde peut nous apporter? Qu'est-ce qu'on peut attendre du monde? Qu'est-ce qu'on peut attendre de tout ce qui nous entoure? Jésus-Christ remet un petit peu l'équilibre dans cette comparaison, dans cette image qu'il prend, parce que lui, c'est le bon berger, le berger par excellence, le berger divin. Celui qui est capable, non pas parce que c'est son travail, non pas parce que c'est une charge lourde, mais parce que c'est par amour, parce que c'est son amour que de donner sa vie, parce que c'est son amour que de se sacrifier, parce que c'est de son amour qu'il a accepté que ses mains soient percées, c'est de son amour qu'il a accepté de porter cette couronne d'épines, c'est de son amour qu'il a accepté cela, parce qu'il a voulu donner sa vie pour ses brebis, parce qu'il voulait que ses brebis aient la vie, Il voulait que ses brebis aient la vie. On peut être détruit par le péché, on peut être détruit par tout un tas de choses. On peut essayer de se construire par mille et une choses. J'ai rencontré dans ma vie, et je sais que je ne suis pas le seul, des personnes qui ont essayé de se construire, de chercher des béquilles à droite, à gauche, des personnes qui n'avaient plus de projet. J'ai rencontré des personnes, et c'est là quelque chose de dramatique, qui disent « mais j'attends plus rien de la vie, j'ai tout vécu, c'en est ainsi, je me laisse vivre, j'attends la mort », non pas dans le sens de mettre fin à ma vie, mais voilà, j'attends la mort, j'ai une famille, j'ai des enfants, ben, j'ai un travail, alors je vis, et puis la mort va venir, c'en est ainsi. » Ce n'est pas ainsi. Jésus-Christ est venu pour qu'on puisse vivre de cette vraie vie, qu'on puisse construire notre joie, notre bonheur, non pas sur ce qu'on peut acquérir d'une manière matérielle, non pas ce qu'on peut acquérir d'une manière scientifique, intellectuelle, mais parce qu'en lui, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Il y a ce psaume 40, auquel je pensais lorsque je préparais ce message. Je vais vous le lire dans la version Parole de vie, pour faire le lien sur le fait que Jésus-Christ, ce bon berger, a voulu donner sa propre vie. C'est un psaume qu'on connaît bien. Il est dit « Tu ne veux ni sacrifice ni offrande. Cela, tu me l'as fait comprendre. Tu ne demandes ni animaux complètement brûlés, ni sacrifice pour le pardon des péchés. Alors j'ai dit « Me voici, je viens à toi. » Dans le rouleau d'un livre, je trouve écrit ce que je dois faire. « Mon Dieu, je veux faire ce qui te plaît, et ta loi est au fond de mon cœur. » Voici, je viens à toi, je viens pour faire ta volonté. C'est ce que Jésus-Christ a pu faire. Nous qui sommes chrétiens, cela nous montre l'exemple parfait. Mais peut-être qu'on a besoin de considérer cet amour, ce sacrifice complet que Jésus-Christ a fait. Il a voulu obéir au Père, il a voulu se donner lui-même pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Dans un autre texte, parce que peut-être pour nous, cette image du bon berger, cette image du berger est un peu loin, est un peu floue. Peut-être qu'on ne sait pas, on a cette image, peut-être en tant qu'enfant, on a cette image de vacances, de voir des brebis, un berger, mais la Bible illustre parfaitement, c'est dans Ézéchiel, au chapitre 34, je vous lis encore dans la version Parole de vie. Il est écrit « Quand un berger se trouve au milieu d'un troupeau, parti de tous côtés, il s'occupe de ses moutons. De la même façon, je m'occuperai de mon troupeau. J'irai délivrer les moutons partout où ils sont partis. dans le brouillard et dans la nuit. Je les ferai sortir des pays étrangers, je les rassemblerai et je les ramènerai dans leur pays. Je les conduirai sur les montagnes d'Israël, dans les vallées, dans les meilleurs endroits du pays. Je les conduirai dans un bon pâturage et ils auront leur champ d'herbe sur les montagnes du pays d'Israël. Là, mes moutons pourront se reposer dans de beaux champs d'herbe. Ils mangeront dans des endroits fertiles sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui serai leur berger. C'est moi qui serai le berger de mon troupeau. C'est moi qui le ferai se reposer. Moi, le Seigneur Dieu, je le déclare. Le mouton perdu, j'irai le chercher. Celui qui s'est éloigné, je le ramènerai. Celui qui a une patte cassée, je le soignerai. Celui qui est malade, je lui rendrai des forces. Amen. Et là, je pense qu'on peut lire ensemble vraiment ce que Jésus-Christ est capable de faire dans chacune de nos vies. Ce que Jésus-Christ veut faire dans chacune de nos vies. Qui n'a jamais eu, on peut, alors bien sûr, pas la patte cassée, mais qui n'a jamais eu par la vie quelque chose, un membre cassé, le cœur cassé, qui ne s'est jamais perdu, qui ne s'est jamais égaré, qui n'a jamais été pris dans le brouillard, qui n'a jamais manqué de nourriture spirituelle, bien évidemment, qui n'a jamais été égaré, qui a été complètement ruiné à l'intérieur de lui. Voilà ce que le bon berger est capable de faire. Voilà ce que Jésus-Christ veut faire et il a payé pour ça. Il a voulu donner sa vie pour que nous puissions avoir cette paix, pour que nous qui étions perdus, nous puissions dire « Je suis retrouvé, Jésus-Christ m'a retrouvé, Jésus-Christ m'a ramené près de lui. » Nous qui cherchions dans ce monde de quoi désaltérer notre soif, de quoi manger, qui cherchions toujours de droite et de gauche, quelque chose qui puisse étancher notre faim, Jésus-Christ est en train de dire « Mais ne cherche plus. » Ne cherche plus, passe cette porte, viens vers le bon berger parce que c'est le seul capable de te désaltérer, de te donner ces pâturages, de te donner ce dont tu as toujours rêvé peut-être, de te donner ce que tu as besoin pour toi dans ta vie. Il est le seul capable de te donner cela. Il est le seul capable de répondre à tes prières, peut-être même les plus secrètes, de répondre peut-être à ce qu'il y a au fond de ton cœur, de venir penser ce qui a été cassé, brisé par la vie. La Bible nous dit qu'il rebâtit sur d'anciennes ruines. La Bible nous dit pas qu'il est là, qu'il va tout dévaster, que tu n'auras plus ta personnalité, que tu ne pourras plus penser par toi-même. La Bible nous dit pas que être chrétien, c'est vivre enchaîné, c'est vivre dans la tristesse, c'est vivre cloisonné chez soi, en se meurtrissant. La Bible ne nous parle pas de ces choses. La Bible nous dit qu'il y a de verts pâturages. La Bible nous dit qu'en Jésus-Christ, nous pouvons trouver le repos pour nos âmes, que nous pouvons trouver de quoi désaltérer notre soif. La Bible nous enseigne que bien sûr nous aurons des tribulations, bien sûr qu'il y a des épreuves, bien sûr qu'à un moment dans la marche, on peut, excusez-moi de vous comparer à ça, mais on peut se casser une patte. Parce que d'ailleurs, il n'est pas dit que Jésus-Christ, pour un peu transposer ce texte, il n'est pas écrit que jamais notre patte sera cassée. Il n'est pas écrit que jamais une brebis ne sera malade. Il n'est pas écrit que jamais on aura des épreuves. Il n'est pas écrit tout ça, mais il est écrit quand ma brebis aura la patte cassée, je vais lui rendre des forces, je vais la guérir, je vais la réparer. Voilà la délicatesse de notre Dieu. Nous ne sommes pas des extraterrestres, nous ne sommes pas en dehors du monde. D'ailleurs, Jésus-Christ a prié, a dit « Je ne te prie pas pour les ôter du monde ». Non, on est dans le monde, mais on vit d'une manière totalement différente. On est dans le monde, mais on vit dans le ciel, l'esprit dans le ciel. On est dans le monde et on vit dans cette paix que seul Jésus-Christ peut nous donner. Le bon berger savait, et il a dit, et excusez-moi si je le redis, mais parce que c'est tellement important et c'est une réalité, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. » Et elles ne périront jamais. La vie éternelle, c'est quelque chose, l'éternité, je pense que c'est quelque chose qu'on a du mal à appréhender, à comprendre. le fait qu'après la mort, il peut y avoir quelque chose. Pour certaines personnes, c'est un mystère, il n'y a rien. Pour certaines personnes, une fois que l'on meurt, on s'en va, c'en est fini de notre existence. La Bible nous révèle cette réalité spirituelle, mais cette réalité profonde, c'est qu'après la mort, il y a quelque chose. Il y a ce que la Bible appelle le jugement. Il y a ce que nos actions vont être pesées, et nous allons voir après, si nous avons suivi Jésus-Christ, nous aurons la vie éternelle. Mais si nous avons manqué la porte, si nous avons manqué le divin berger, le bon berger, si nous n'avons pas voulu que le bon berger s'occupe de nous, si nous n'avons pas voulu qu'il vienne nous réparer les pattes cassées, si nous n'avons pas voulu qu'il nous donne lui à manger, mais si nous avons toujours voulu prendre notre propre nourriture, la Bible nous dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est pour cela que nous nous plaisons et nous voulons avec grand sérieux avertir et proclamer ce message, parce que si Jésus-Christ a dit que sa volonté, son désir, c'est que ses brebis aient la vie éternelle, c'est parce qu'il y a une éternité et on doit considérer ces choses. Je terminerai avec cette troisième proclamation qui, je pense, on aurait beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas m'étendre non plus trop. Il va dire « Personne ne les ravira de ma main ». La deuxième partie du verset 28 du chapitre 10 de Jean, « Personne ne les ravira de ma main ». Et peut-être vous commencez à me connaître, mais je ne peux pas me lasser de dire que Jésus-Christ sera avec nous tous les jours. On ne peut pas s'empêcher et on ne peut pas le dire, le proclamer. On ne peut pas oublier ce que Jésus-Christ a dit, parce que encore une fois, il savait, pour refaire le lien avec ce qu'on a déjà dit, il savait qu'il y aurait des loups, c'est inévitable. C'est inévitable. Il savait qu'il y aurait des lions, parce qu'une brebis, ça peut rester vulnérable si ça s'éloigne trop du troupeau. Une brebis, ça peut être pris rapidement par une bête féroce si elle décide de faire cavalier seul, si elle décide d'aller voir un pâturage un peu plus loin en disant « Mais après tout, est-ce que Dieu a réellement fait cela pour ma vie? Est-ce que Dieu a réellement dit cela ?» Pour reprendre une parole de la Bible, est-ce que Dieu a? Et Jésus-Christ savait très bien qu'on pouvait avoir du doute, on pourrait être en proie à ces bêtes féroces, et c'est pour ça qu'il a dit. C'est pour ça qu'il a dit, personne, nul ne les ravira de ma main. Ravir, on peut le traduire par saisir, arracher, enlever de force. Et je pense que si on est sincère, si on a fait cette expérience, et peut-être qu'il y a là des personnes qui n'ont pas encore fait une expérience ou qui sont en train de faire cette expérience, de découvrir Jésus-Christ, de passer la porte, de découvrir ce bon berger. Et on vous encourage à aller plus loin en lisant la Bible, en priant, en mettant votre vie en conformité avec ce que la Bible demande. Parce qu'on a le choix, encore une fois, on a le choix de suivre ou de ne pas suivre. On a le choix de refermer cette porte en disant non, ce que la Bible demande c'est trop dur, ou on a ce choix de dire non, je veux suivre le Seigneur Jésus jusqu'au bout. Et si on décide de le suivre jusqu'au bout, il y a cette promesse, il y a cette proclamation. Si on reste toujours attentif à sa voix, à la voix du bon berger, à ce qu'il nous dit, à là où il veut qu'on puisse aller pour prendre ces verts pâturages, personne ne pourra vous arracher de sa main. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça très rassurant. Ça me rassure de savoir que ce n'est pas moi qui fait que je suis chrétien. Ce n'est pas mes propres forces qui me fait dire que je suis agréable à Dieu. Ce n'est pas parce que je suis une telle ou un telle personne, c'est pas parce que j'ai un caractère docile ou que sais-je encore, chacun est capable de parler pour sa propre vie, mais ce qui fait toute la différence dans votre vie, dans ma vie, ce qui peut faire toute la différence dans votre vie, c'est que Jésus-Christ est capable de vous garder. Quand bien même il y aurait des lions, quand bien même il y aurait des loups, quand bien même il y aurait des scandales, quand bien même il y aurait des personnes qui viennent pour essayer de semer le trouble dans votre esprit, pour essayer de vous dire que Jésus-Christ, ça ne sert à rien de s'en occuper, pour essayer de dire que la parole de Dieu ne dit pas la vérité, quand bien même il y aurait toutes ces personnes, Jésus-Christ nous tient dans le creux de sa main, c'est là sa promesse, on veut s'attacher à cela, on veut croire que Jésus-Christ a été capable de tout accomplir pour nous, pour reprendre ce que la Bible dit. Il a été capable de tout accomplir. Jésus-Christ a dit « Tout est accompli sur la croix parce que son sacrifice est parfait et son sacrifice est parfait pour nous accompagner tous les jours de notre vie. Son sacrifice est parfait pour nous accorder le pardon de nos péchés si nous décidions ce soir de franchir cette porte, si nous décidions ce soir d'aller vers ce bon berger et de goûter à tous ces pâturages qu'il veut nous proposer. » Amen. On peut prier un instant. Père, merci. Merci pour ton amour. Merci parce que il t'a plu de donner ton Fils pour que nous puissions vivre. Merci parce que tu n'as pas voulu nous laisser errants. Tu n'as pas voulu que chacun suive sa propre voie. Tu n'as pas voulu que notre vie soit en vain. Tu n'as pas voulu que nous restions perdus, sans but dans ce monde. Mais il t'a plu d'envoyer ton Fils Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Merci ce soir pour ce que tu nous rappelles au travers de ta parole qui est tellement vivante. Merci pour la porte en Jésus-Christ. Merci parce que nous voulons la franchir ce soir. Nous voulons rentrer dans ce chemin que tu as pour nous, dans cette nouvelle route que Jésus-Christ a inaugurée pour chacun d'entre nous dans nos vies. Merci parce que cette route nous mène à la croix où le bon berger a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Nous te bénissons pour ce sacrifice. Jésus, merci parce que tu as donné ta vie volontairement. Merci parce que tu as accepté d'être crucifié. Tu as voulu verser ton sang pour que nous puissions avoir le pardon de nos péchés. Oui, Seigneur, merci pour cela. Oh, Seigneur, veuille encourager peut-être quelqu'un qui est là, qui a franchi la porte, mais qui a du mal à peut-être aller plus loin. Oh, veuille encourager quelqu'un qui a peur que une épreuve de la vie vienne la ravir de ta main. Non, tu nous as rappelé que tu nous tiens dans le creux de ta main. C'est là ton amour parfait. Alors merci pour tes promesses, merci pour ta présence, merci pour ton Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, amen.